I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et ici le principe est tout simple. À chaque épisode, une année de ciné prise au hasard, de 1895, donc création du cinéma, à 2018, et un invité pour en discuter. L'invité du jour est forcément formidable, il est chef culture du magazine Styliste, critique aux Inrecuptibles et fier représentant du Sud-Ouest. Salut Théo Ripton.
Salut Thibaut, tout est vrai.
Est-ce que ça va ?
Ça va très bien, je suis très content de participer à ce premier enregistrement.
Eh bien, très, très content de te recevoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Tu saches que tu auras la tâche difficile en fin d'émission de choisir l'année suivante dont on va parler.
Allez, de ma fameuse main innocente.
Exactement. Oui, parce que le but du jeu, effectivement, est que l'invité choisisse l'année de l'épisode suivant. Mais pour cet épisode, on va dire inaugural, c'est moi qui ai décidé de choisir une année que je juge importante à plein de niveaux, économique, social, historique, artistique, bien sûr. L'année 1975. Alors bien sûr, l'objectif, c'est pas tant de parler de tous les films que d'essayer de mettre une teinte, une tonalité sur l'année dont on discute, dont on parle, tout en essayant d'évoquer quand même le plus de films différents possible. Bref,
tout à fait.
Je te propose qu'on parte directement dans cette année 1975, cette année de cinéma qui s'annonce plutôt pas mal. On y va ?
On y va tout de suite. Allons-y.
Eh ben, on y va. Shining Star, Earth, Wind & Fire, on écoutait ça en 75, donc de la bonne musique, mais pas que. En 75, c'est aussi l'année de la création de la fondation de Microsoft par Bill Gates et Paul Allen. C'est aussi l'année de la fin de la guerre du Vietnam, qui aura quand même duré 20 piges et fait plus de 3 millions de morts. Mais le cinéma dans tout ça, 75, c'est... On allait voir en France La Tour Infernale avec Paul Newman et Steve McQueen, qui avait quand même réuni 4 millions de spectateurs. On célébrait la Palme d'Or de Chronique des années de Braise.
C'est les plus gros succès,
4 millions 5, ouais. C'est le plus gros succès français au box-office. D'accord. Effectivement, La Tour Infernale. Donc la Palme d'Or, et c'est donc Chronique des années de Braise de l'Algérien Mohamed Lakhdar Amina. Mm-hmm. Et pendant qu'en France, effectivement, on matait Steve McQueen et Paul Newman dans une tour en flammes, aux États-Unis, on était pris par quelque chose d'autre, un phénomène tout particulier. Notre premier thème, véritablement, notre premier film. Une sorte de petite révolution, un petit film. Vous savez quoi, je ne vais même pas vous dire le titre du film. Je vais tout simplement vous mettre, allez quoi, une musique. On aura donc bien sûr reconnu Star Wars. Non, pas du tout. On a reconnu bien sûr... Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Théo, toi, la première fois, tu te souviens de la...
La première fois que j'ai vu Les Dents de la Mer, je pense que ça fait partie des films que j'ai vus à l'enfance, enfin à l'adolescence. Mais il y a un truc très primitif dans Les Dents de la Mer. On sait pas, on a l'impression qu'on l'a toujours vu. Ça fait partie de ces films-là, j'ai l'impression. Et je suis pas capable de dire la première fois que je l'ai vu. Mais par contre, je suis capable de dire la dernière fois que je l'ai vu, parce que je prépare cette émission très studieusement, et c'était donc jeudi dernier.
Est-ce que c'est toujours aussi bien ce Dents de la Mer, forcément ?
Ouais. Et en même temps, c'est un Spielberg très étrange. Je l'avais pas revu depuis très longtemps. C'est un Spielberg qui ressemble pas tellement à ce qui fait Spielberg. Pour moi, qui est un truc un peu plus nocturne, un peu plus du rêve, etc. Enfin, c'est un Spielberg très particulier, en fait.
Et on en parle parce que 75, effectivement, pourquoi moi j'ai choisi cette année-là, particulièrement pour débuter l'aventure Année Lumière, c'est que c'est donc l'année où Les Dents de la Mer sort, et Les Dents de la Mer est communément appelé comme le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, ouais. Ce qui veut, à mon sens, tout et rien dire, on va le voir peut-être, parce que qu'est-ce qu'un blockbuster véritablement ? Théo, qu'est-ce qu'un blockbuster ? Question
bah, je piège. Un blockbuster, c'est la définition, quelque part, pour moi, elle est assez simple. C'est un film qui est colossal en termes de résultats en salle. Souvent, aujourd'hui, on considère aussi que c'est un film qui est colossal en termes de moyens. C'est dès à partir de ce truc-là que Les Dents de la Mer, ça devient un peu plus compliqué de le mettre dans cette case-là. Ouais. Les Dents de la Mer, bon, qui a quand même un budget important, faut pas exagérer non plus, mais c'est un film qui a eu beaucoup de galères de production, etc. C'est pas... Star Wars, c'est pas Le Seigneur des Anneaux, c'est pas un blockbuster au sens d'une entreprise.
En sens moyen développé.
Voilà. Par exemple, est-ce que Blair Witch est un blockbuster? Parce que Blair Witch est un film qui a avec très peu de moyens, mais c'est le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Ça se trouve, Les Dents de la Mer serait plus dans cette catégorie-là. Donc un blockbuster, tout le monde sait ce que c'est et personne ne sait ce que c'est à la fois. Les Dents de la Mer, je pense qu'on lui donne ce titre-là parce que Spielberg, précisément, a ensuite fait la carrière la plus prolifique,
la plus prolifique
en termes de revenus. Il n'y a pas d'autres réalisateurs qui aient fait ça. Donc je pense que Les Dents de la Mer, c'est l'initiateur de ça.
Ouais.
C'est plus pour ça peut-être qu'on dit que c'est le premier blockbuster.
Pour donner du contexte un petit peu, le phénomène des Dents de la Mer en 75, c'est assez fou. Effectivement, le film sort le 20 juin 75, donc au début de l'été.
Ouais.
Et il engrangera, pour vous donner une idée, 260 millions de dollars au box-office américain. Alors, maintenant, si on prend ces millions de dollars à maintenant, ça peut nous paraître peu, mais pour vous donner une idée, si on compare au dollar de l'époque, ça équivalerait à peu près à 1 milliard de dollars. Donc, en termes de spectateurs, en termes d'impact sur la société et les spectateurs, c'est assez phénoménal. Après, la question, c'est pour ça que je pose la question de pourquoi est-ce qu'on considère ça comme le premier blockbuster ? Parce que si on regarde un petit peu juste l'histoire du cinéma, on se rend compte que avant lui, on avait eu d'autres films qui avaient rapporté un max de thunes, notamment Autant d'emporte le vent, qui est resté quand même longtemps et qui est encore considéré comme le film effectivement le plus rentable ou le plus successful de l'histoire du cinéma. On avait La Mélodie du Bonheur qui avait ramené aussi 160 millions de dollars, 1,3 milliard ajusté, on va dire. Et même L'Exorciste, deux ans avant, en 1973, qui avait lui fait 232 millions de dollars de l'époque, c'était déjà pas mal. Et pourquoi effectivement on parle de Jaws, des Dents de la Mer comme le premier blockbuster? J'ai cherché, moi aussi je me pose cette question-là, pourquoi juste parce qu'il a gagné de l'argent.
Je pense qu'il y a un basculement de ce qu'on considère comme un blockbuster. Effectivement, peut-être que L'Exorciste, pour le coup, est plutôt dans cette catégorie-là.
Parce que le blockbuster créé par Les Dents de la Mer, ce n'est pas effectivement un phénomène ou un modèle économique particulier, plus qu'un résultat au box-office. Juste avant de partir là, en fait, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on pose ça? Et en fait, apparemment, Jaws est considéré, en termes de nombre, comme le premier blockbuster, parce qu'il aurait ramené... C'est le premier à avoir ramené 100 millions de dollars, ce qu'on appelle de bénéfices directs dans les salles, c'est-à-dire des bénéfices qui vont directement aux producteurs studio. C'est-à-dire que les films précédents ont dû ramener effectivement un max d'argent, sauf que la rentabilité n'est pas la même. Donc techniquement, effectivement, il a peut-être ce statut parce que déjà, en termes de rapport aux producteurs et d'argent rapporté aux producteurs, il gagne, on va dire, c'est le premier à avoir dépassé cette liste-là.
C'est un film dont la moitié de l'action se passe sur une plage et la deuxième moitié sur un bateau. Enfin, c'est un film qui n'est pas extrêmement lourd en termes même la palette d'effets est assez faible. Spielberg dit lui-même, c'est un film dans lequel il n'y a pas beaucoup de requins. Le requin est tout le temps hors champ. Le requin, on est souvent son point de vue. Hein, on est sous l'eau et là il y a la musique et machin. Mais enfin, c'est vraiment un film
dont les effets sont assez minimalistes.
Ouais.
Ah, véritablement.
Et après, c'est le premier blockbuster de ce qu'on considère aujourd'hui. C'était par exemple le premier blockbuster horrifique. Bon, on parle de L'Exorciste avant, donc c'est plutôt L'Exorciste. Mais voilà, ça c'est aussi des choses qui n'existaient pas tellement avant les Dents de la Mer, des énormes succès horrifiques comme ça. Et puis avec ce mode-là de faire peur aussi, de faire peur avec des surgissements, des jumpscares, des trucs comme ça.
C'est intéressant ce que tu dis sur l'impact du cinéma major sur le blockbuster, on en parlera. C'est intéressant parce qu'effectivement, on a cet impact, on va dire, pécunier au box-office, mais Jaws... Avant tout, c'est la création d'un nouveau modèle. Quand on dit blockbuster, c'est que Jaws va créer quelque chose qui n'existait pas avant. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Il va imposer l'idée qu'un film peut fonctionner, peut ramener énormément d'argent en été, qui est une période traditionnellement pour le cinéma qui est pauvre. Et qui, en 75, a switché, a changé. En raison notamment de Jaws qui a prouvé que malgré l'été, on pouvait avoir
des succès. Peut-être qu'on est revenu à ça, mais cette histoire du blockbuster estival, il y a une sorte de truc. Moi, là-bas, je pensais que c'était un peu une légende urbaine parce que j'entendais souvent ça. Et puis finalement, il y a des articles très sérieux qui continuent de le dire. Et donc, c'est la corrélation entre les blockbusters et la climatisation. Donc ça, c'est un truc qui a... Alors, l'année dernière, il y a eu un article, il y a eu un dossier incroyable du Monde Diplomatique sur l'histoire de la climatisation aux États-Unis qui en a reparlé. Donc,
c'est-à-dire
qui a réévoqué cette histoire-là. l'accréditant, donc bon, ils ont quand
même disant que l'invention de la climatisation serait à l'origine.
Que à l'origine, les premiers, effectivement, ce que j'avais toujours entendu, c'est les premiers immeubles climatisés dans les grandes villes américaines, ça a notamment été les multiplex de cinéma, et que pendant certains étés caniculaires, et notamment l'été 1925. D'après cet article-là, les gens sont allés se réfugier dans les salles du cinéma. Et à la suite de ça, les studios ont flairé le truc et ont eu tendance à mettre leurs gros films l'été. Voilà. Après, moi, je ne connais pas bien toutes les périodes de l'histoire. J'ai l'impression que ça, c'est des choses qui fluctuent beaucoup. Parce que finalement, la concentration des films, par nature, c'est quelque chose qui va forcément se déplacer. Au moment où tout le monde est venu à la même période de l'année, bah, forcément, du coup, il y a trop de monde. Et donc, du coup, il faut que le blockbuster de Noël revienne. Ou je sais pas, donc... Et peut-être qu'effectivement, Jaws fait revenir... fait revenir le blockbuster d'été en 75. Actuellement, le blockbuster d'été, c'est toujours un truc assez colossal. C'est une période qui est du coup très difficile pour les plus petits films, quoi. Voilà. Mais je sais pas si ça a été le cas à toutes les périodes de l'histoire du cinéma.
Mais du coup, effectivement, cette idée de phénomène, on en parlait. Ouais. Toi, ça t'intéresse parce que tu m'as dit effectivement, Jaws, Les Dents de la Mer, c'est intéressant parce que c'est un film. Spielberg, on va parler du film en tant que tel, pas en tant que phénomène financier. C'est un film donc de genre, sur un requin mangeur d'hommes, qui emprunte, je trouve personnellement, en termes de promotion, en termes de bouche à oreille, en termes d'exploitation en tant que tel, beaucoup à un autre cinéaste, donc tu voulais effectivement qu'on parle, qui est Alfred Hitchcock.
Hitchcock, c'est un. Pour moi, c'est un. C'est le mauvais père de. Enfin, mauvais au sens malsain.
Ouais.
De Spielberg. En gros, Spielberg, schématiquement, c'est Hitchcock et Disney, je trouve. Il y a l'optimisme de Disney et la perversité de Hitchcock chez Spielberg. Et peut-être que le plus Hitchcockien des Spielberg, c'est Les Dents de la Mer, pour plusieurs raisons. La première, je parlais tout à l'heure par exemple de la musique. Il y a effectivement un truc sur cette musique qu'on a l'impression d'avoir toujours entendu. La musique de. Moi, la musique des Dents de la Mer, le thème pour moi, c'est un peu comme le thème de Psychose pour ça. Le thème de Psychose, il y a une anecdote dans un documentaire sur Psychose que j'avais vu qui était super. Bon, je oublie le titre.
Avec les chiffres 42, 60.
Ouais, exactement. Voilà, le documentaire sur la scène de la douche. Et apparemment, à un moment, il y a quelqu'un qui dit moi, un jour, j'ai entendu ma fille, elle avait 3 ans. Et elle faisait pour la blague le bruit des violons de Psychose. Oui, oui, pardon pour
ces 3 ans. Quoi.
Et il disait, mais elle l'a jamais entendu. Je lui ai évidemment jamais montré ce film, mais il y a quelque chose qui rentrait dans une sorte de mémoire innée de la culture humaine. Et pour moi, Les Dents de la Mer, je pense que c'est pareil. J'ai un neveu qui est à peu près 3 ou 4 ans. Je suis sûr que si je joue avec lui dans une piscine, il serait capable de faire. Je pense qu'il y a un truc de.
C'est quand même des phénomènes de culture.
Il y a d'autres choses, évidemment, que Les Dents de la Mer. C'est un peu les oiseaux, parce qu'il y a ce truc-là de la nature horrifique, des animaux qui sont habités d'un truc hostile, terrifiant. Il y a quelqu'un qui avait remarqué quelque chose, qui est que la première attaque dans les deux films est précédée d'une comptine pour enfants, avec un effet de contraste un petit peu dans les oiseaux. Quand Tipi Edren s'assoit dehors et qu'il y a le petit bon temps, qui est d'ailleurs un truc de jeu pour enfants, sur lequel les corneilles commencent à s'installer. La musique est une espèce de comptine, et dans Les Dents de la Mer, c'est quand Richard Dreyfuss surveille la plage et qu'il commence à s'inquiéter. Il y a les gens qui viennent lui parler un peu bizarrement en travers de sa vue et qui l'embêtent. Et là, au moment où on sent qu'il y a le requin qui n'a pas tardé à arriver, on a un plan sur un petit garçon qui fait un pâté de sable et qui chantonne. Bon, voilà, c'est un rapprochement.
T'es en train de dire que Psychose, ou en tout cas Hitchcock, et Les Dents de la Mer est une sorte de roller coaster de destruction de l'enfance. D'abord de l'innocence, et puis de la scène d'après, tout de suite, on la casse.
Il y a un effet de contraste. Après, il y a aussi un truc qui est connu, c'est que dans Psychose, il y a un transtrav, donc un travelling compensé qui est le.
Transtrav, Théo ?
Transtrav, c'est un mouvement de caméra. C'est un mouvement de caméra qui consiste à faire un mouvement opposé avec la caméra et avec le zoom. Donc, c'est-à-dire que le sujet qui est au centre de l'image garde la même taille, mais par contre, l'espace autour de lui se distord.
Donc, la caméra recule, mais l'optique zoom.
Ça crée une sorte
zoom.
De sentiment. Déjà, ça crée une rupture totale de la continuité spatiale. Ouais. Il se passe quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que l'œil humain pourrait voir. Et en général, ça crée un sentiment de sidération. Donc, en tout cas, les dents de la mer, ça, c'est le regard de Richard Dreyfuss terrifié. Voilà. Et ça, c'est un truc qui a été inventé, je ne peux pas dire de bêtises, peut-être qu'il l'a juste popularisé par Hitchcock dans Vertigo pour formuler le sentiment de vertige le personnage principal. Donc voilà, je trouve que dans Les Dents de la Mer, il y a beaucoup de choses de cette espèce de perversité hitchcockienne. Voilà. Et par ailleurs, Hitchcock est l'inventeur, je pense, du blockbuster. Quand on disait tout à l'heure que le blockbuster, comme forme fresque dans les années du Hollywood classique,
ouais,
est quelque chose qui n'a plus tellement d'héritage aujourd'hui, parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse faire des centaines de millions au box-office avec les 10 commandements, par exemple. Il y en a qui essayent régulièrement de refaire des adaptations bibliques. Et
ça ne fonctionne pas.
J'ai pas l'impression que ça fait les mêmes résultats au box-office. Par contre, Hitchcock, quand il fait des films comme La mort aux trousses, comme L'homme qui en savait trop, des formes très très dynamiques, des films de genre très en mouvement, avec des familles au centre, en crise, dans une aventure, ouais, machin, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans quelque chose qui se rapporte à ce qu'aujourd'hui on fait, quand on fait un Mission Impossible, quand on fait un... voilà, je pense que James Bond, ça vient aussi beaucoup d'Hitchcock. Voilà.
Ouais,
et donc, quelque part, le premier faiseur de blockbuster, c'est sûrement Hitchcock. Donc, voilà, il y a comme ça plein de petites corrélations autour des Dents de la Mer et de Spielberg, qui, pour moi, est voilà, un enfant un peu secret de la perversité d'Hitchcock.
C'est vrai que c'est drôle parce que s'il faut encore tisser, on va dire, un lien entre Hitchcock et Spielberg et même le principe de blockbuster, c'est que c'est deux cinéastes qui vont inclure... de manière un peu ludique et maligne, le spectateur dans leur on va dire leur schéma narratif ou dans leur construction. C'est que déjà effectivement ce qui est assez amusant, c'est qu'Hitchcock dans ses films Psycho et d'autres, il avait quand même placardé en tant que promotion dites à vos amis de pas vous dire la fin, ou alors il demandait aux exploitants d'interdire l'entrée des salles si les gens arrivaient en retard. Donc tu avais une sorte d'excitation, d'exaltation de l'expérience cinématographique chez les spectateurs en disant les spectateurs, ça fait partie de l'expérience. Déjà en plus il est quand même connu pour une émission qui s'appelle Alfred Hitchcock présente, où il parlait aux spectateurs, donc ce quatrième mur était déjà un petit peu cassé. Et comme tu le dis, Hitchcock et Les Dents de la Mer jouent avec cette idée de T'attends le requin, ah c'est pas le requin, là c'est le requin. Il y a ce côté de petit jeu avec le spectateur, comme tu le dis, qui est peut-être leur
on a le sentiment que l'un comme l'autre, ils ont une prise directe sur nos émotions. Ça fait partie de ces cinéastes où quand on regarde un film d'Hitchcock ou un film de Spielberg, on a physiquement le sentiment d'être leur prisonnier.
Ouais.
D'autres cinéastes, même à succès, on a quand même le sentiment qu'ils nous racontent quelque chose, qu'on les écoute, qu'on est là. Hitchcock et Spielberg, il y a quelque chose de beaucoup plus captif de leur capacité de sidération et de fascination. Moi, je me sens complètement prisonnier de ces deux cinéastes quand je regarde un film d'eux. Pour moi, ça c'est aussi là-dessus où voilà, ils font partie de cette espèce de petit groupe de magiciens dans l'histoire du cinéma qui a compris quelque chose dans la façon dont on capte l'attention d'un spectateur qui m'échappe complètement, sur lequel j'ai du mal à mettre deux mots. Mais en tout cas, c'est un sentiment physique, on est leur prisonnier.
Ouais, et moi, personnellement, bah, je te rejoins là-dessus. Et moi, ce que j'aime, par exemple, dans Les Dents de la Mer, là, c'est la pureté de la narration que je trouve très bien. Les personnages sont extrêmement bien écrits. Et en plus, c'est un film à l'économie. Et c'est un film qui, vu qu'il est à l'économie, il est forcément malin, il est forcément et forcément il y a du génie, il y a de la magie qui sort de ce film-là, parce que ils ont eu des problèmes de requins, ils n'ont pas pu le montrer, etc. Oui. Et c'est ça qui fait tout le sel du film.
Ils ont écrit au fil du truc aussi. Hein. Ils ont perdu le requin et voilà. Ensuite ils ont continué de s'adapter. Spielberg est plutôt un contrôle fric, hein, qui est un mec qui vraiment maîtrise absolument tout dans Les Dents de la Mer. Il se met vraiment en danger.
Il a 30 piges hein, quand il fait ce film-là, ouais, Spielberg. Oui. Donc,
c'est son deuxième long métrage, du coup. Voilà. Et puis il a beaucoup bossé un peu. Il a bossé à la télé, il a déjà confirmé. Et puis il a une image dans le nouvel Hollywood de petit génie. C'est celui qui est beaucoup trop doué pour son âge, qui sait tout faire, qui d'ailleurs ne se drogue pas, qui est juste
le genre idéal, finalement.
Un foudre de travail, quoi. Et donc il est pas. On ne pourrait pas dire qu'il est inexpérimenté, mais il se met considérablement en danger. Après, c'est vrai que. Moi, c'est un truc que j'évoquais tout à l'heure, en introduction, on se disait, je trouve que c'est un Spielberg qui ressemble pas à un Spielberg par rapport à... qu'est-ce qui vous vient en premier en tête quand je m'adresse aux spectateurs,
dites-nous qu'est-ce qui vous vient en premier,
voilà, on vous écoute. Et donc voilà, c'est un film qui a l'air un peu à côté de ce qu'est le Spielberg en kit.
Qu'on pourrait
définir par ce qu'on vient de parler, les petits
mais on retrouve quand même pas mal de Spielberg, parce que déjà Les Dents de la Mer est un film sur le divorce, n'est pas un film sur... alors Les Dents de la Mer n'est pas sur
il y a toujours le père quelque part,
n'est pas sur un requin qui divorce, hein, rassurez-vous, film sur un divorce. Et si vous regardez relativement, c'est un thème qui va être récurrent de la vie de Steven et des films de Steven, notamment parce que
presque jamais mis en scène directement,
voilà, toujours indirectement. E.T. c'est aussi un petit peu ça, et c'est toujours à hauteur d'enfant. Mais c'est intéressant de voir déjà dans ce film, on va dire fondateur, de plein de choses, en trame ce que sera Spielberg toute sa carrière, même si, comme tu le dis, Théo, c'est pas vraiment son film le plus spielbergien, mais les graines sont plantées, véritablement.
Il y a un penseur qui s'appelle, je sais plus si c'est Jean-Jacques ou Jean-Claude Moscovitz, qui a fait un livre sur Spielberg, une sorte de psychanalyse de Spielberg. Bon, qui pour le coup est un livre qui est plutôt consacré à la judéité de Spielberg, donc Schindler et plein d'autres choses. Mais
qui s'appelle comment?
Je m'en rappellerai plus, mais j'imagine que tu auras un truc d'info où tu pourras le rappeler. Pour les...
voilà.
Et il dit effectivement qu'il y a toujours quelque part le père dans, hein, et que dans Les Dents de la Mer, c'est le requin. Le requin, c'est le père. Et le père qu'on craint, etc. Et il parle de la scène dans laquelle il y a les trois garçons dans le bateau,
ouais,
qui comparent leurs blessures, etc.
Exactement.
Et c'est les trois enfants qui comparent leur sexe. Et qui...
voilà. Mais c'est vachement. C'est
et c'est très intéressant.
Quelle lecture
et le requin, c'est le père. Mais en tout cas, le père est toujours quelque part chez Spielberg.
Ah, regardez.
Le père qui a rompu le foyer, c'est le traumatisme.
Et donc, à la fin, Les Dents de la Mer, c'est un film sur il faut le tuer, le père, véritablement. Ou
voilà,
le mettre une bonbonne dans la bouche.
Ils vont dire des choses un peu exagérées, du genre voilà, tous les films de Spielberg racontent au fond la même chose. Mais alors, en l'occurrence, je trouve ça assez marrant de voir le film avec à l'esprit ce truc-là. Et cette idée que le requin, c'est le père. Ça rend les scènes très drôles.
Bon, très bien. Les Dents de la Mer, du coup, effectivement, premier blockbuster du cinéma. Ça, finalement, on a vu que c'était pas forcément le cas, mais c'était aussi un petit peu quand même le cas. En tout cas, c'est un vrai phénomène qui a bouleversé l'économie, l'histoire du cinéma en général, et qui a imposé un système, en tout cas économique, qui est encore en cours aujourd'hui, si vous n'êtes pas au courant, comme il y a 27 000 films de blockbuster qui sortent tous les ans et qui veulent chacun réaliser le coup de l'année. Bref, il a mis un système en place dont on a encore les conséquences aujourd'hui, et rien que pour ça, c'était important d'en parler. Mais 75, c'est pas que Les Dents de la Mer, bien sûr, il y a plein de films, on a vu ça en introduction, mais c'est aussi l'année folle d'un acteur hors du commun, la personnification pour certains de l'esprit même des années 70, et qui va être au centre de notre deuxième thème, Jack Nicholson. Koufax gets a sign from Roseboro, he kicks once, he pumps, he fires, it's a strike! Koufax's curveball is snapping off like a fucking firecracker. All right, here he comes with the next pitch, Presh swings, it's a long fly ball to deep left center! Alors là, ce que vous venez d'entendre, effectivement, c'est la scène de Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, où, privé de télé, Jack Nicholson va faire semblant de regarder le match et va imaginer le match, imaginer les actions et créer, créer, on va dire, un événement. Tous les patients vont se joindre à lui pour s'enjailler ensemble. Et je trouve que cette scène-là, pourquoi moi je l'ai mise en introduction, résume un petit peu une partie de Jack Nicholson, c'est-à-dire que c'est quelqu'un effectivement qui va être dans cette sorte de folie douce en permanence et qui va être un acteur. Alors pour vous donner une idée, pourquoi on parle de Jack Nicholson quand on parle de 75,
parce qu'il fait beaucoup de films en 1975.
Parce qu'il fait 75. Alors 75 pour Nicholson, c'est l'année où il est nommé aux Oscars pour Chinatown de Roman Polanski, qu'il a fait donc l'année précédente. Il va tourner avec Ken Russell, le film Tommy. Donc Ken Russell, c'est un réalisateur qui a réalisé Les Diables, il fait Alter States, plein de films. Il va tourner avec Mike Nichols pour La Bonne Fortune. Il va tourner, bien sûr, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. Et il va tourner avec Michelangelo Antonioni pour Profession Reporter. Donc il va faire 4 films.
Dont 3 où il est le premier rôle,
avec à chaque fois des réalisateurs, des cinéastes important, et en plus de ça, donc en plus de la nomination à l'Oscar, en plus de ces 4 films, en plus de Vol au-dessus d'un nid de coucou pour lequel il sera nommé à l'Oscar l'année suivante et pour lequel il remportera l'Oscar l'année suivante, donc c'est déjà une grosse année. C'est aussi l'année, on va dire, où Jack Nicholson va découvrir, entre guillemets, en tout cas sur le tournage de La Bonne Fortune de Mike Nichols, il découvrira on va dire une histoire personnelle un petit peu particulière, puisqu'il découvrira par le biais d'un journaliste du Time que sa grand-mère, ou en tout cas ce qu'il a toujours cru comme sa grand-mère, il a toujours cru que c'était sa mère, était en fait sa grand-mère, et ce qu'il avait toujours pensé comme sa sœur était en fait sa mère. Donc placez-vous bien ça dans l'idée, le mec il découvre, il a quel âge, il a 35 ans, que sa mère est en fait sa grand-mère et que sa sœur est en fait sa mère depuis le début, et que ces deux personnes étant décédées, il découvre ça après tout le monde, et c'est assez drôle parce qu'il apprend ça d'un journaliste.
J'ai une année beaucoup plus calme en 75.
C'est 12 mois assez chargés, et malgré ça, voilà, effectivement, c'est un...
Et il dira qu'il est même pas traumatisé par ça. Mais ça, c'est... Ouais. Ça, c'est la monstruosité de la solidité de Jack Nicholson, qui va être un peu... Peut-être un peu le fil rouge de la discussion à son sujet, mais voilà.
Qu'est-ce que... J'ai envie de poser une question un petit peu...
T'inquiète pas, je l'ai préparé. Je l'attends.
Dis-moi, Théo, c'est quoi Jack Nicholson?
Non, mais c'est marrant. C'est normal de se poser la question comme ça, parce qu'effectivement, on se demande ce qu'il singularise. Et moi, je dirais que c'est plusieurs choses. Déjà, je trouve que c'est quelque chose... c'est un peu un être venu d'ailleurs. Moi, dans la notion que j'ai de lui... c'est pas un acteur que j'arrive à ranger dans une catégorie, c'est pas un acteur à qui je trouve par exemple des rivaux, ni des frères, ni des cousins artistiques, ni des complices, même s'il y a certains réalisateurs avec qui il a beaucoup collaboré, comme James L. Brooks, mais c'est pas vraiment quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un qui a utilisé Nicholson comme un élément perturbateur. Enfin, c'est pas, voilà, il a pas forcément toujours le premier rôle. Donc voilà, c'est quelqu'un de très très unique. D'ailleurs, j'en ai une image de quelqu'un de très seul. On vient de voir qu'il avait un rapport à sa famille quand même assez étrange, puisque avec cette histoire-là, il y a un côté, il n'a pas de parents en fait. C'est-à-dire qu'il a... Bon, faut savoir que donc effectivement, sa mère était showgirl. Elle était pas, elle avait envie de faire une carrière dans l'entertainment. Donc elle était une artiste de scène, voilà. Et ses grands-parents ont voulu qu'elle puisse faire cette carrière quand elle est tombée enceinte, alors qu'elle avait, je crois, 17 ans. Et donc du coup, c'est eux qui ont imaginé ce stratagème. Elle, le père, elle a dit que c'était un acteur, mais elle n'a jamais dit qui. Il y a des gens qui ont recoupé, qui ont fait des recoupements en associant ça avec des jeux de ressemblance. Imagine que c'était peut-être Arthur Kennedy. Effectivement, quand on voit des photos d'Arthur Kennedy, on peut trouver qu'il y a une ressemblance. Ouais. Le biographe, lui, considère que c'est plus probablement le manager. Ouais. Voilà. Nicholson, lui, refuse.
Il connaît pas, il veut pas savoir qui est son père.
Il refuse qu'on fasse des tests ADN. Donc, il y a un côté venu de nulle part. Il y a un détail que j'adore, c'est quand même que sa ville de naissance et où il a grandi s'appelle Neptune. Donc il vient d'une autre planète, il n'a pas de parents, voilà, Nicholson. Et je trouve que dans la particularité de son visage, espèce de courbe que font les sourcils, etc., il y a un vrai truc d'extraterrestre chez lui.
Ouais.
Il y a pour Nicholson, pour moi, c'est ça, c'est une sorte d'être venu d'ailleurs absolument mystérieux dans sa conception et encore une fois que j'imagine seul. Il a eu plusieurs femmes, bien sûr, il a eu cinq enfants. Mais presque c'est une manière d'être seul. Enfin, je veux dire, quand on a eu cinq, c'est quand même que du coup on n'a pas eu de d'âme sœur en fait. Enfin, je ne sais pas laquelle. Bon, je pense que la cinquième, il est encore avec et que ça fait longtemps. Mais bon, laissez-moi dans ma petite fiction. Donc ce serait ça. Et là, deuxièmement, Nicholson, c'est la folie. C'est vraiment l'acteur de la folie d'un registre de jeu qui en plus depuis est devenu un registre très très apprécié des cérémonies, etc.
Ouais, bien sûr.
C'est le registre qui lui a apporté ses plus grands, ses statuettes pour la plupart.
Ouais, bien sûr.
Il a, voilà, dans ses rôles les plus emblématiques, je trouve que Nicholson, c'est quelqu'un qui travaille la folie en tant que registre de jeu extrêmement libre, parce que quand on est fou, on peut tout faire, mais aussi extrêmement. Voilà, qui va travailler quelque chose de l'ordre de la torture intérieure.
Ouais.
Mais ça aussi, c'est quelque chose de très ambigu chez Nicholson, parce que je trouve qu'on a l'impression qu'il n'a pas d'intériorité. Mais voilà, il y a un truc, c'est vraiment l'acteur de la folie. Et qui a peut-être, de ce point de vue-là, je disais, je trouve qu'il n'appartient pas à une famille d'acteurs, peut-être que par contre, il a une descendance. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose de Nicholsonien chez des gens, comme dans certains rôles, les rôles de la folie de DiCaprio.
Bien sûr.
Dans certains rôles de Jim Carrey, Donc voilà, ce serait ça pour moi, Nicholson.
Donc un acteur effectivement de la folie, un acteur un peu à part, un peu lunaire, un peu extraterrestre véritablement. Alors c'est intéressant parce que effectivement quand on pense à Jack Nicholson, on va penser à Shining, on va penser à même au Batman, au Joker de Batman, on va penser à ses rôles où il est un petit peu, ou en tout cas il peut être un petit peu over the top, ou en tout cas c'est un acteur qui peut être très externe et on va le voir très interne aussi. Il peut avoir une intériorité tumultueuse. Alors juste pour vous donner une idée, Jack Nicholson en 75, il est en pleine bourre, hein, il a donc une année extrêmement riche, et il est extrêmement coté depuis, premièrement, Easy Rider en 69, où il a un rôle secondaire, mais qui va quand même lui donner une nomination à l'Oscar, qu'il n'aura pas, et surtout 5 pièces faciles de Bob Rafelson, qui est souvent placé comme le film qui a révélé le Nicholson qu'on connaît tous, c'est-à-dire que ce Nicholson un petit peu fou, cette folie douce, véritablement.
Fantasque, quoi.
Fantasque, véritable.
Ça, c'est la version un peu apprivoisée du Nicholson dont je parlais, mais qui est très importante dans sa carrière.
Voilà.
C'est Nicholson fantasque. Et qui est aussi celui de Coucou, qui est, où il n'est pas vraiment fou, en fait. Mais bon,
oui, mais bien sûr, il est dans cette folie douce. Alors, du coup, effectivement, c'est un film 5 pièces faciles que je vous conseille de regarder parce que ça montre bien les deux aspects de Nicholson, c'est-à-dire une intériorité particulière et en même temps une folie parce qu'il va saisir ce style un petit peu du coup colérique, impulsif, très dans l'improvisation, l'éclat, l'explosion véritablement. Et c'est le film aussi qui va imposer son personnage et va l'imposer auprès du public parce que le film sera un succès. Il dira à son agent qui s'appelle Sandy Bressler qu'il aime jouer avec des gens qui n'existent pas encore. Qu'il a ce désir créatif, une fois que cela fait partie de la sagesse conventionnelle, cela ne semble plus particulièrement aventureux, bizarre ou sauvage. Il dira ça dans le livre, enfin en tout cas c'est un propos qui est relaté dans la biographie Five Easy Decades de Denis McDougall. Donc il va demander ça à son agent, il va dire ça à son agent, il a envie de jouer du coup avec des gens qui n'existent pas encore. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il existe un autre Jack Nicholson, en tout cas à cette époque-là, ou est-ce que les rôles que Nicholson joue sont uniques dans le panorama, on va dire, de ces années 70. C'est un acteur qui est très typé à ces années 70, il est très particulier dans son rôle, dans son actorat, on l'a vu, mais est-ce qu'il est si unique que ça, véritablement est-ce que...
Ben, il a quand même des acteurs de la même génération qui le croisent sur des castings, voilà, je sais qu'il est quand même assez proche de Warren Beatty. Je sais qu'il a passé le casting pour Apocalypse Now, que finalement le rôle a échoué à Martin Sheen. Peut-être que dans les années, je dirais même pas les années 70, je dirais jusqu'à 75, peut-être que Nicholson est encore envisagé par les directeurs de casting comme une des options dans certains films pour lesquels on envisage peut-être les acteurs que je viens de citer. Je pense que c'est peut-être là, à partir de l'année 1975, je peux pas tirer les pompes pour le bon choix de cette année, mais c'est peut-être à partir de ce magnifique choix extrêmement pertinent d'un cinéphile comme toi, j'en attendais pas moins, et je pense que peut-être qu'à partir de cette année, et peut-être que c'est 5 ans plus tard avec Shining que ça sera vraiment définitivement, il ne reviendra plus là-dessus, quand on pense à Nicholson pour un rôle, on pense à Nicholson, on ne peut pas imaginer quelqu'un d'autre. Bon, la réalité, évidemment, qu'il va se retrouver voilà. Mais il y a quelque chose de... Enfin, Nicholson est devenu sa propre catégorie. Et peut-être que... Mais c'est quand même sûrement à partir de son Oscar pour le tenir de coucou, donc de 75, que ça existe. Effectivement, et je ne l'imagine pas avoir de rivalité. J'ajouterais peut-être un truc aussi, c'est quelque chose qui ne le définit pas, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas quelque chose qu'on peut dire de beaucoup d'acteurs. Nicholson, c'est une longévité. C'est-à-dire que là, les acteurs que je viens de citer, qui sont encore vivants tous aujourd'hui, Warren Beatty, Martin Sheen, machin, qui les a vus dans des films, ils sont pas officiellement... Ils sont peut-être... Ouais, peut-être que Warren Beatty est officiellement à la retraite.
Ouais. Mais, Gene Hackman, mais...
Mais voilà, j'ai quand même l'impression qu'ils n'ont pas fait les mêmes années 90 ou 2000 que Jack Nicholson. J'ai l'impression que c'est un des rares... avec Eastwood, je dirais, acteur américain, à faire des grands films des années 60 aux années 2000.
Et à être encore là, effectivement.
Et alors, à être encore là.
Moi, j'ai un rêve, mais je l'avais mis sur Twitter, j'ai un rêve, effectivement, que Jack Nicholson, qui n'a pas fait de film depuis 2010, j'aimerais effectivement qu'il sorte de sa retraite, et j'adorerais que Quentin Tarantino, dans son Once Upon a Time in Hollywood, qui se passe justement... En 1968, à cette période-là, effectivement, où lui, Jack Nicholson, a vécu et il s'est passé des choses pour lui à cette période-là. J'adorais que Quentin Tarantino sorte Nicholson ou Gene Hackman du chapeau, n'en dise rien à personne, tourne une scène en studio, machin, et que tout le monde découvre au cinéma Nicholson dans un rôle. J'adorerais qu'il nous fasse cette surprise-là. Que tout le monde découvre au cinéma, ce sera un cadeau. Et je pense que Tarantino serait parfait d'une certaine manière pour avoir Nicholson.
Il y avait un joli scénario de sortie de retraite avec le remake américain de Tony Erdmann de Marina 2, qui est un très beau film allemand qui est sorti il y a maintenant 3-4 ans, un truc comme ça, et dans lequel il aurait joué un père extrêmement fantasque qui se déguise pour essayer de dérider sa fille qui est une working girl. Et donc c'était censé être avec Kristen Wiig. Quelque part, le fait que Nicholson a abandonné le projet, je le vois comme un signe que le projet n'était peut-être pas très intéressant finalement, parce que Nicholson, je trouve qu'il a une telle clairvoyance dans le choix de ses projets. je crois pas qu'il joue dans beaucoup de mauvais films. Enfin, je trouve qu'il y a un non, mais pour le coup, les acteurs ont des œuvres d'acteurs, mais elles sont prisonnières des choix d'autres. Et c'est très difficile pour un acteur, même un grand acteur, de pas faire de faire un sans-faute sur sa carrière. Ouais. C'est pas tout à fait le cas de Nicholson, mais franchement, il y a quand même quelque chose d'extrêmement lucide sur les endroits où il faut aller, où le cinéma est en train de se régénérer. Il a joué avec, il a fait des rôles avec des jeunes réalisateurs qui,
bien sûr,
il a fait des paris énormes avec James L. Brooks, avec Tim Burton, avec voilà, il a senti
et c'est le détenteur du recordman du Oscar,
ouais, masculin
bien sûr, trois
qui est indépassable,
voilà, et Houston
et Meryl Streep en nomination,
John Ford pour les mais ouais. En tout cas, pour en tant qu'acteur, effectivement, ouais, c'est, il a trois statuettes, ce qui est un record.
Deux meilleurs acteurs. Best Supporting.
Pour peut-être clore cette idée-là, enfin ce débat-là, ce thème-là sur Jack Nicholson, à moins que tu voudrais rajouter quelque chose.
Non, mais...
J'aimerais juste citer une citation de Mike Nichols.
Quoter une citation,
ça veut rien dire. N'importe
c'est
quoi.
C'est redondant, mais
citer une citation.
Bah oui, citer.
Partager
une citation, ouais, c'est bien, c'est ça.
Mike Nichols qui disait: il y a James Cagney, il y a Spencer Tracy, Humphrey Bogart et Henry Fonda. Et après ça, qui a-t-il d'autre que Jack Nicholson, véritablement ?
C'est marrant comme série, parce que là, on voit qu'il parle d'une Jack Nicholson du début des années 70. Parce que James Cagney, Spencer Tracy, James Cagney particulièrement, c'est un peu des souris, c'est un peu le Nicholson fantasque et flué,
ouais,
mais qui est encore un peu celui de Chinatown,
c'est
peut-être.
Mais c'est pas transformation.
C'est pas encore devenu Nicholson l'ogre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est un peu ça, Nicholson. Il y a eu quand même un truc physique, il y a eu certains embonpoints, hein, qui, au fil des années, mais voilà.
Mais le temps n'est pas
aisé. Le temps est
assassin avec nous
et
tous.
On pense avec lui, les rires des enfants, on est tous d'accord avec ça. Mais voilà, je pense que du coup, effectivement, il a un peu évolué. Mais même dès qu'il est jeune et qu'il commence à se durcir dans des rôles. Je pense que c'est Shining qui fixe ça. Il
ouais.
y a quand même un truc. On aurait du mal à dire que Shining. On aurait du mal à imaginer James Cagney jouer dans Shining, quoi.
Mais c'est vrai que c'est pas mal cette liste-là où t'as James Cagney, Spencer Tracy, Bogart et Henry Fonda. Mm. Et on se dit effectivement dans ce panthéon-là de grands acteurs qui ont marqué leur décennie chacun, ou parfois la même décennie véritablement. Mm. Nicholson est parfaitement à l'aise. Est-ce que on a un petit peu évoqué le cinéma contemporain récent. Est-ce que tu verrais toi
Un Nicholson actuel,
alors on a parlé de DiCaprio d'une certaine manière, effectivement DiCaprio a cette tendance là, mais à être aussi très interne et très externe facilement, il est moins peut-être
Moi je trouve que le Nicholson quand je pense au Nicholson burlesque, en fait, quelque part au Nicholson qui se tord le visage, il y a un truc, enfin du coup je lui trouve des héritiers burlesques. Tout à l'heure je disais que Jim Carrey quelque part a été un... Mais bon, il y a quelque chose de très différent physiquement. Enfin, faut savoir quand même qu'il
a imité.
Faut savoir quand même qu'il a déjà imité à la perfection Jack Nicholson. Mais imiter, ça, c'est les imitations de Jim Carrey, c'est que ça va plus loin qu'une imitation, c'est qu'il déforme son visage pour ressembler à la personne, c'est délirant. Mais Nicholson a failli jouer le Grinch aussi.
Exactement.
Non, c'est difficile. Encore une fois, il est très unique. Passe au sujet suivant.
On va terminer ce thème, on va dire, sur Nicholson, juste pour évoquer quelque chose qui moi m'intéresse personnellement. C'est qu'effectivement Nicholson va tourner en 75 un film qui s'appelle Profession Reporter,
oui,
avec Michelangelo Antonioni, l'un des plus grands cinéastes italiens et du monde entier. Je vais juste vous mettre un petit extrait que je trouve relativement intéressant et qui cerne bien peut-être et Nicholson et Antonioni.
All right! I don't care!
Donc l'extrait que vous avez entendu, effectivement, c'est Profession Reporter, film donc de 75 dans lequel joue Nicholson, film de Michelangelo Antonioni, qui est un réalisateur donc italien. Et Nicholson, c'est intéressant parce qu'il aura joué avec Polanski l'année précédente. On va voir qu'effectivement, en 75, il va jouer avec Miloš Forman, qui est quand même un cinéaste qui vient d'arriver aux États-Unis, mais qui est tchécoslovaque, ouais, à la base. Là, il tourne avec Anthony. Donc, Nicholson va être dans cette mouvance-là de jouer avec toujours des cinéastes qui ont des choses à dire, j'aurais tendance à dire, et on va dire des cinéastes qui ont des univers bien particuliers et américains, Mike Nichols,
par la modernité européenne, voilà, quoi.
Et par les Européens qui, dans les années 70, tapent à la porte véritablement. Alors, moi, je trouve intéressant de voir Antonioni, qui est un cinéaste de l'errance, un cinéaste du vide, entre guillemets, où il va laisser ses personnages errer et chercher des réponses eux-mêmes, même le spectateur avec le personnage. De voir un acteur comme Nicholson, aussi exubérant, aussi bouffeur d'images, être placé dans un environnement où il est complètement désemparé et dans l'incapacité peut-être de bouffer l'image véritablement.
Ouais, c'est un choix extrêmement ambigu et brillant de la part d'Antonioni, parce que finalement c'est un rôle qui va un peu contre ce qu'est Nicholson. Il joue l'histoire d'un journaliste, d'un reporter qui découvre le corps d'un homme qui lui ressemble et qui décide de se faire passer pour lui pour tenter une nouvelle vie.
En Afrique.
Ce qui se suit, d'une errance.
On est en Afrique,
on est dans le désert en Afrique, je ne sais plus dans quel pays exactement. Et y a quelque chose, par exemple, au début, il y a un problème de langage. Nicholson ne parle pas la langue qui lui permettrait de communiquer sur place. Ça vient annuler un truc de la volubilité de Nicholson qui est terrifiant. Et effectivement, le film ensuite fabrique une contemplation autour de lui où quelque part tous les super pouvoirs de Nicholson sont absolument inopérants et inutiles pour le film. Je veux rien dévoiler de la fin, mais dire la dernière phrase. Où Maria Schneider dit à son sujet, je ne l'ai jamais connu, je n'ai jamais su qui c'était, un truc comme ça. Et ça, je trouve ça formidable parce que, comme je disais tout à l'heure, je trouve que Nicholson, c'est un film, donc là c'est un film dans lequel il tente d'être une autre personne que lui-même, elle va le découvrir un petit peu, et puis finalement pas tout à fait le rencontrer pour autant non plus. Et en fait, je trouve que Nicholson, il est ni l'un ni l'autre des personnages, on ne sait pas qui il est. Je trouve que Nicholson, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'intériorité. Et quand on dit depuis tout à l'heure que Nicholson, il joue la folie, il y a quelque chose qui est troublant, c'est que normalement, quand on regarde un film et que le personnage est fou, sa folie, c'est la nôtre. L'empathie pour lui. C'est très difficile d'avoir de l'empathie pour Jack Nicholson. C'est difficile de se mettre à sa place.
Il semble seul dans sa folie.
S'imaginer à sa place, avoir de la fragilité. Sa folie, c'est la sienne et c'est pas la nôtre. C'est lui qui est fou dans les films. Ouais. Et c'est seulement lui qui est fou. Et on n'a pas du tout accès à la manière dont il est intérieurement fou. Ouais. Et tu parlais, je sais que tu voudras clore là-dessus, donc peut-être que je te fais une transition.
Ah, mais fais donc.
De Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est un film qui, moi, je trouve, ne nous épargne pas quelques petits clichés sur les films d'asile, et notamment sur la sagesse des fous, et la belle candeur des fous, etc. Mais je trouve que ce qui est passionnant par rapport au fait que Jack Nicholson, c'est son registre le plus important dans sa carrière, c'est que c'est un film dans lequel il va non pas être fou, mais jouer la folie. Parce que l'histoire, c'est que c'est un criminel qui doit se faire passer pour fou pour réussir à se dissimuler dans un asile. Et je trouve ça assez magnifique que ce soit un film sur Nicholson, le faux fou, et qu'on n'arrive plus à savoir à la fin d'un film s'il est fou ou pas, parce que de toute façon, Nicholson, on ne sait jamais ce qu'il pense et ce qu'il ressent.
Voilà. Et que c'est une magnifique conclusion, merci Théo. D'ailleurs, je conseille à tous et de voir l'intégralité des films de Antonioni, et aussi, pour revenir sur Vol au-dessus d'un coucou et pour conclure, de regarder la cérémonie des BAFTA quand Jack Nicholson gagne le BAFTA pour Chinatown et La Dernière Corvée. Et où il accepte son BAFTA sur le tournage de Vol au-dessus d'un coucou. Et donc on a ce plan où Jack Nicholson est derrière une vitre, il est en train de parler, on ne l'entend pas, il pète la vitre d'un coup de poing, tout ce bris de verre, fracas, et enfin effectivement il peut lancer ses remerciements, et on voit tous ses amis comédiens, tous ses patients on va dire du film, donc Danny DeVito etc etc, le rejoindre derrière et puis jouer avec les bouts de verre, dire bon, enfin. Il y a cette scène complètement qui résume bien. Le mec dit, reçoit son BAFTA en pétant une vitre et en disant merci avec ses collègues. Un commentaire YouTube était parfaitement éclairé parce que sur cette scène-là, on a Jack Nicholson et Danny DeVito. Donc on a le Joker et le pingouin au premier rang de cette vidéo. Donc c'est assez magnifique pour les fans de Batman.
Merci à ce YouTuber qu'on créditera dans l'émission.
Voilà. Bon, effectivement, Jack Nicholson, Les Dents de la Mer, ça nous fait déjà une année, effectivement, 75, bien chargée, mais c'est, on va le voir, une année assez sublime quand on est fan de cinéma, hein, quand on allait dans les salles en 75, il y avait quand même une flopée de films assez phénoménale. Il serait bien assez long de tous les évoquer, mais on va faire un petit tour du monde, on va rentrer dans une partie, un petit tour du monde où on peut accorder, effectivement, du temps à tous ces films qu'on n'arrivera pas forcément à approfondir. Mmh. Alors toi, tu voulais nous parler d'un film en particulier qui t'avait touché,
alors,
Théo.
Alors ce n'est pas ma recommandation qui sera pour la dernière partie de l'émission. Exactement. Mais effectivement, quand tu m'as parlé du Tour du Monde, je trouvais qu'il y avait un film qui est à la fois méconnu et à la fois peut-être pour la niche qui le connaît, un film assez, assez légendaire, qui s'appelle Jeanne Dielman. Titre intégral, Jeanne Dielman, 16 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, je crois. Enfin, c'est l'adresse du personnage principal, le titre. De Chantal Akerman, donc une jeune réalisatrice belge, enfin à l'époque, qui est décédée il y a quelques années, en 2013-14, un truc comme ça, qui s'est suicidée, et qui a été une réalisatrice qui a été un peu dans le cinéma, mais aussi beaucoup dans les musées, dans l'installation, qui a fait des films assez radicaux et d'autres plus narratifs.
Donc une artiste au sens large,
voilà,
véritablement.
C'est une proche de Garrel, c'est une proche de voilà. Et elle a été et elle a fait dans Jeanne Dielman un film avec une star à l'époque qui est Delphine Seyrig, donc elle a fait Delilah. Voilà,
ça raconte quoi, Jeanne Dielman?
Jeanne Dielman, c'est le quotidien d'une jeune d'une veuve. Mère d'un enfant adolescent à Bruxelles, qui vit de manière très morne, puisque tous les jours elle a un quotidien extrêmement cadré par les rythmes des tâches ménagères, par la cuisine, la lessive, s'occuper de son fils quand il rentre de l'école, et l'après-midi accueillir des hommes dans sa chambre pour du sexe tarifé. Et ce film, c'est un film extrêmement long et qui donne une impression de quasiment temps réel, même si en fait c'est pas en temps réel parce que ça se passe sur 48 heures, il me semble. C'est ce quotidien de Jeanne Dielman qui devient quelque chose d'absolument abrutissant et d'absolument hypnotique, rythmé par les déplacements d'une salle à l'autre. C'est extrêmement rigoureux sur l'espace et totalement hypnotique. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, elle jouit. Et ce jour-là, tout son quotidien se dérègle. Tout fonctionnait, c'était un parfait petit robot ménager dont toute la vie était rythmée par les habitudes, etc. Mais l'intrusion du plaisir dans sa vie va la faire devenir folle et va avoir une issue, violente, que je dévoile pas. Et c'est peut-être le film le plus puissant sur ce que ça peut être que l'aliénation domestique et l'enfermement mental. Qu'on vit par choix pour oublier qu'on a une vie de merde, pour devenir un robot au service de son quotidien et de la tenue de son foyer. Et cette aliénation-là, dans Jeanne Dielman, on la ressent très fortement. Alors, la durée du film est très impressionnante, surtout qu'il ne s'y passe pas grand-chose, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant et hypnotique qui marche sur toute une... Enfin, moi j'ai vu marcher sur des enfants ce film, quoi. Enfin, il y a un truc très très puissant. Effectivement, il faut céder au film. J'ai découvert
les
dans
enfants,
un train.
Les enfants peuvent le voir.
Et oui, parce que quelque part... enfant, j'exagère, mais quelque part, enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout de... tout est assez suggéré du point de vue du point de vue du sexe. Il y a eu une projection légendaire à la quinzaine des réalisateurs en 75 où la moitié de la salle a quitté petit à petit pendant la projection la salle, et la salle était apparemment scandée par le claquement des sièges. C'est ce que racontent les témoins. Voilà, vraiment à intervalles réguliers. On a vu
façon de toujours une façon de romancer le...
Mais la fin de la projection a été une standing ovation cette jeune réalisatrice qui avait scotché, pas tout le monde, mais les gens qui étaient restés les avaient scotchés.
Et voilà. Tu sais quoi, moi je n'avais pas entendu parler de ce film comme tu me l'as proposé. J'ai été intrigué déjà par effectivement ce que j'ai pu lire sur le film, et ce que tu as pu nous en dire était tout aussi intriguant, et je le rajoute forcément à ma watchlist. Donc résume-nous le titre complet.
Jeanne Dielman, je dirais que c'est 16 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Et voilà, le film le plus puissant que je connaisse sur la condition féminine enfermée et domestique.
Parfait. En 75, pour vous donner une petite idée, on avait le droit à Rocky Horror Pierre Turchaud, on avait le droit à Sacré Gal des Monty Python, on avait le droit à Une après-midi de chien de Sidney Lumet, quand même des films assez phénoménaux. On avait John Huston.
Ça a sûrement été dans mon top 3 de l'année, je pense, Une après-midi de chien.
Mais l'année jusqu'à présent est quand même phénoménale. Et encore, on a John Huston, L'homme qui voulait être roi, on a un Kurosawa, Dersu Uzala. On a Profondo Rosso d'Argento, donc on a une flopée de films qui est quand même assez phénoménale. On aimerait bien avoir une année comme ça aujourd'hui.
De manière générale, ça avait l'air d'être bien d'être cinéphile dans les années 70. Quoi. Il y a toujours un truc un peu foudroyant où il n'y a que des bons films. Quoi, mais...
Et moi, dans tout ça, j'ai envie de vous parler d'un film. On va continuer notre tour du monde. J'ai envie de vous parler d'un film qui, à mon sens, représente bien 75, ou en tout cas même les années 70 en général, qui c'est Les Trois Jours du Condor. de Sidney Pollack avec Robert Redford, qui est un film, pourquoi je l'ai choisi, parce que je qui va parler, on va dire, de qui est l'histoire d'un d'un employé de la CIA, mais on va dire dans la partie à New York, dans la partie un petit peu relou de la CIA. C'est-à-dire qu'en fait, son travail, ça va être de lire les livres, de lire des œuvres, etc., et d'essayer de trouver des codes cachés dans les livres publiés par l'ennemi, entre guillemets, jusqu'au jour où, dans son travail de libraire, on va dire, de lecteur, voilà, avec ses collègues, jusqu'au jour où il va se rendre compte qu'il a découvert, lui et ses collègues, un code secret et qui doit, on va dire, être par l'agence éliminé, et il va tout faire pour éviter d'être éliminé. Et découvrir un peu le secret et mettre à jour ce secret. Donc c'est un film qui est donc sur cette idée que les autorités, les institutions sont gangrénées, sont mauvaises, un peu effectivement dans la lignée de l'homme du président, dans la lignée de ce que Watergate. Donc c'est un produit, un pur produit de Watergate, de l'affaire du Watergate, donc de Nixon, etc. Et donc, dans ces années 70, on va avoir toujours cette idée-là, effectivement, que la vérité est ailleurs, que les institutions nous cachent quelque chose, cette idée du complot en permanence, et c'est un film que
c'est
je trouve...
C'est un grand thème de la décennie, c'est la paranoïa, quoi.
La paranoïa, ouais, en bande sur les qui nous dirige, comment est-ce qu'on nous dirige, qu'est-ce qu'on nous cache, et c'est un film que je trouve assez... assez beau d'une certaine manière, parce que très facilement, très rapidement, il va lâcher, on va dire... il va se permettre de lâcher l'intrigue d'enquête, de thriller, machin, pour aller vers des scènes qui vont être plus posées, plus tranquilles, entre deux personnages, une amourette, des choses comme ça. Puis mine de rien, on peut en parler, mais on parle de cinéma, donc on parle d'émotion, et Robert Redford est un acteur qui irradie, qui a une aura assez phénoménale, et quand il apparaît à l'écran, mine de rien, ça a son petit effet. Donc si vous ne l'avez pas vu, Les Trois du Condor est assez phénoménal, notamment pour sa fin, que je ne spoilerai pas, mais qui est dans l'esprit des années 70, c'est-à-dire qu'effectivement, on met à jour des choses, mais on quitte la scène, on quitte, on va dire, cette réflexion sur une note un petit peu douce-amère de, effectivement, est-ce que tout ça valait le coup? Est-ce que tout ça a véritablement un sens? Et est-ce que finalement... on pourra vraiment casser le système ou en tout cas révéler les choses. C'est intéressant. Les Trois Jours du Condor, c'est forcément un classique que je vous invite à voir. Est-ce que tu avais, toi, une autre suggestion dans ce tour du monde des 75
Tu nous as suggéré aussi Salaud de Pasolini. Moi, c'est marrant parce que c'est un film auquel j'ai repensé très récemment parce qu'on a dû faire... aux Inrocks, on aime bien faire des tops un peu pour tout et n'importe quoi, donc on fait régulièrement des classements des meilleurs films français des 20 dernières années ou des meilleurs films comiques, voilà, choses comme ça. Et donc récemment, on a dû faire le classement des meilleurs films qui font peur. Et c'était pas évident pour moi parce que j'ai pas forcément un rapport enfin, je sais pas, je m'y connais pas très bien en cinéma d'horreur parce que je suis un petit peu une petite nature et moi je regarde pas beaucoup de films d'horreur. Mais j'en regarde quand je vraiment un bon a priori sur ce que ça vaut comme film tout court et donc j'accepte ma peur et en général du coup j'adore ma peur mais voilà mais du coup je cherchais et du coup j'ai fait un classement un peu bizarre avec des films qu'on met pas vraiment dans les films qui font peur genre Pinocchio de Disney, choses comme ça.
Et ça fait très très peur Pinocchio de Disney, c'est extrêmement flippé,
c'est ma peur primale hein, voilà.
C'est mon Disney préféré mais je ne le conseille pas aux enfants,
c'est ma peur primale,
les enfants ne regardez pas ce film,
mais Disney c'est traumatique et en fait j'ai pensé à Salaud et je me rends compte qu'en fait j'ai un rapport à ce film j'ai vraiment un rapport de peur en fait, mais pas la peur comme en général on aime bien le dire au cinéma, c'est-à-dire que la peur c'est ce qu'on ne voit pas, la peur c'est ce qui est caché derrière la porte, c'est les dents de la mer, c'est psychose, la peur c'est ce qu'on ne voit pas, et ben dans Salaud on voit tout et justement c'est un film de l'horreur de la crudité, je parle pas des carottes râpées mais de quelque chose de très cru dans le fait que moi j'ai un souvenir de film de plan très très large où tout le monde est en train de souffrir ou d'être humilié à tous les coins du cadre dans un truc un peu infernal. Je l'ai pas vu depuis quelques années et en même temps pour moi c'était des tableaux de Jérôme Bosch quoi, ouais. Plein de personnages partout qui sont en train de faire des horreurs.
Pour recontextualiser,
je suis pas du tout en train de le pitcher.
Pour recontextualiser ouais. Salaud, donc le titre entier c'est Salaud,
les 120
journées
de Sodome,
et
c'est adapté du Marquis de Sade,
voilà, réalisé par Pierre Paolo
Pasolini,
qui est un cinéaste du coup comment tu pourrais, si en un mot, comment est-ce qu'on pourrait provocateur,
subversif italien, extrêmement
qui sera assassiné la même année. Donc qui sera assassiné aussi en novembre 75
pour à cause du film,
à cause du film et puis pour l'ensemble de son œuvre.
C'est extrêmement son assassinat est encore aujourd'hui officiellement non élucidé parce qu'il y a quelqu'un qui s'est auto-accusé puis qui a fini par admettre qu'il s'était auto-accusé parce qu'on lui avait demandé de le faire et qu'il a accepté d'aller en prison. Peut-être pour pas qu'on s'en prenne assez proche. Enfin, je connais plus le nom de cette personne, mais bon, bref. Voilà, Pasolini a été tué sur une plage près de Rome, où il a été écrasé par une voiture dans un acte criminel, dans la période où Salo faisait une polémique colossale en Italie et ailleurs également, parce que c'était un film qui s'attaquait un peu tout à la fois. C'est-à-dire que c'était qui raconte dans l'Italie de la Seconde Guerre mondiale. Je suis même plus sûr.
Moi, je t'avoue que Salo, ça c'est intéressant parce que tu disais effectivement que Salo, j'en ai peur, etc. Ouais. C'est l'un des films que j'ai dû commencer au moins deux fois et que j'ai dû arrêter. C'était extrêmement malaisant.
Ce sont des hommes qui représentent tous des institutions du pouvoir et d'un pouvoir, d'un pouvoir masculin.
Donc j'ai jamais pu le voir en entier.
Qui sont à la fois religieux, militaires, machin, et qui vont kidnapper et séquestrer des jeunes gens dans un château pour leur faire subir toutes sortes de sévices. Et là, je vous ai pitché tout le film en fait. Et donc, du coup, et en fait, c'est ça qui se passe. Et ensuite, c'est l'exploration de ça, et l'exploration de l'horreur et de l'humiliation de l'autre. Il y a du sang, il y a des excréments, c'est une sorte de d'exploration du pire.
Ça a l'air pas mal, et moi,
je trouve qu'effectivement, c'est un film immense de la peur, parce que des films de la peur qui montrent, finalement, je ne suis pas capable d'en citer beaucoup.
Ouais.
Et dans la peur, c'est souvent facile de ne pas montrer, mais c'est très difficile de savoir
bien montrer.
Bon, je fais un petit décrochage pour revenir brièvement sur Spielberg, mais Spielberg, c'est quelqu'un qui sait exactement choquer avec une image. Dans tous ses films, il y a toujours un truc de l'image de trop. Il sait quand il faut montrer. Dans Les Dents de la Mer, quand il découvre le corps, la tête
du pêcheur. Avec le gosse.
Oui, mais moi je pense à la tête du pêcheur.
Ouais, absolument.
C'est vraiment l'image de trop et l'image du trauma. Spielberg, il sait montrer. Ben dans Salo, on sait montrer. Et montrer, il faut savoir que c'est la même étymologie que monstre. Voilà, donc Salo, c'est un film monstrueux.
Eh bien, merci pour ce tour de monde, Théo. Donc Salo et les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini. Un bon film de dimanche soir, pluvieux, à regarder en famille si vous pouvez.
C'est vrai que là, sur les trois qu'on vous a dit, je pense que Les Trois Jours du Condor, c'est quand même peut-être celui. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai l'impression que c'est celui qui se regarde un petit peu plus calmement. Même si ça a l'air d'être aussi lourd. Hein, mais voilà, Jeanne Dielman, c'est quand même 3h20 tâches ménagères. Salo, on mange de la merde. Donc,
j'aurais pu choisir Sacré Graal, j'aurais pu vous parler de l'amour que j'ai pour Sacré Graal, des chevaliers du Nid, des chevaux avec des noix de coco et comment on se fout de la gueule des Français dans Sacré Graal. J'aurais pu faire ça, mais je suis sûr que Sacré Graal. Tout le monde a vu Sacré Graal, tout le monde a vu Rocky Horror Picture Show. On est là pour montrer des films ou pour parler de films, effectivement, que peu de gens ont vu. Moi, j'aurais un dernier film pour clore ce tour du monde, qui est un film qui est encore une fois fondateur. Décidément, 75 est l'année des films fondateurs. Puisque ça va être le film Frisson de David Cronenberg, qui est le deuxième long métrage. Il est plus communément comme le premier, mais il en a fait un petit avant.
C'est quoi le premier ?
Il en a fait un premier qui dure 1h03, dont j'ai pas le nom véritablement, mais en tout cas,
il a fait moins date que Frisson.
Voilà, véritablement. Frisson, on va dire que c'est le vrai premier film de David Cronenberg. Le film qui va le révéler, qui est l'histoire d'une barre d'immeuble qui va se retrouver infestée, contaminée par une sorte de ver qui tourne, qui change les gens en sorte de créatures avides de chair et de sang et de choses comme ça, des créatures donc du coup qui deviennent humaines mais inhumaines dans leur comportement. Et donc Frisson d'David Cronenberg, c'est intéressant parce que déjà ça révèle un cinéaste qui va être majeur dans les années qui suivent, les années 80, les années 90. Hein. Cronenberg, c'est La Mouche, c'est Vidéodrome, c'est Existence, l'excellent Existence, et c'est aussi l'apparition du genre qui va être lié à ce cinéaste-là, David Cronenberg, puisque c'est l'apparition du genre appelé le body horror, qui est un genre où, effectivement, c'est un genre de film où le corps se déforme, se change pour... véritablement. Donc c'est un genre de film, vous regardez, vous tapez body horror sur Internet et vous allez voir qu'il y a une flopée de films qui ont ce même sous-thème et qui constituent du coup ce sous-genre intéressant qui est et dont j'ai fait effectivement une petite vidéo sur Internet.
Maintenant David Cronenberg
Qu'est-ce qui fait David Cronenberg? Excellente question.
Maps to the Stars. Exactement. J'ai pas entendu parler de lui.
Que t'avais aimé
Moi j'aime bien, mais très hermétique. C'était dans la continuité de Cosmopolis que j'avais adoré. Maps to the Stars, c'était un sorte de complément de programme, mais surtout Cosmopolis que j'adore. Ouais. Mais du coup, je sais pas s'il est actif actuellement.
Non, mais du coup, écoutez, si vous voulez vous plonger dans le body horror, je vous conseille bien sûr La Mouche, parce que c'est quand même effectivement un film sur le body horror. Je vous conseille Vidéodrome, encore plus, qui est effectivement encore une fois sur les déformations du corps. Frisson, dont je viens de parler, qui est donc de 75, son vrai premier film, on va dire. Et puis même Chromosome 3 qui est toujours sympathique, qui est bien malaisant, bien flippant. Donc entre Salo, Frisson,
Jeanne Dielman, bon dimanche,
mon dimanche. Donc si vous êtes déprimé, vous êtes en train d'écouter ce podcast dans le métro, on est désolé. Donc repensez à Sacré Graal et au Chevalier du Nid, c'est quand même vachement bien. On termine ce tour du monde. On arrive doucement effectivement à la conclusion de cette émission. On va se quitter sur une petite recommandation. Est-ce que toi, dans cette année 75 qu'on a quand même balayé, on a parlé de Des Dents de la Mer, on a parlé de Nicholson, on a pu parler du coup de plein de films de Nicholson. De cette année-là, on a pu parler du coup de ce tour du monde avec Jeanne Dielman et Trois Jours du Condor. On a pu évoquer pas mal de films. Est-ce que toi, tu avais une recommandation pour clore cet épisode de cette année, un film qu'on n'a pas cité peut-être?
Tout à fait. Alors, c'est un film qui a été fait en 1975, qui est sorti en 78 en France, et qui est le deuxième film de son réalisateur, il me semble. Je tease beaucoup. C'est un Australien. Il est question d'aller bivouaquer près d'une petite formation rocheuse. Non, donc c'est Picnic à Hanging Rock de Peter Weir. Picnic à Hanging Rock, je pense que c'est mon film préféré de l'année 75.
Qui est Peter Weir véritablement?
Peter Weir, on le connaît pour la carrière américaine qu'il a eue ensuite, et pour des films comme Le Cercle des Poètes Disparus, comme Witness, comme Le Truman Show, qui est peut-être son plus connu, je dirais.
Master and Commander, l'excellent.
Master and Commander dans les années 2000.
Mosquito Coast, génial Mosquito Coast.
Ouais. Gallipoli, on commence à avoir fait un peu le tour.
J'adore Peter Weir, je sais pas s'il
y a beaucoup de gens qui sont actifs aujourd'hui avec peut-être Spielberg, dont on peut dire qu'ils ont fait 4 chefs-d'œuvre. Enfin, Peter Weir, vraiment, je pense que c'est un des plus grands réalisateurs du monde.
Je pense.
Et les gens connaissent assez peu son nom. Mais sa carrière, mais disons qu'il a fait carrière dans un relatif académisme parfois, mais ce qui peut aussi des fois donner des bons films. Mais bon, moi, Le Cercle des Poètes Disparus, j'aime un peu moins, mais voilà. Mais le début de sa carrière, pour le coup, se fait dans une très très grande étrangeté, et notamment avec, alors il y a un premier film de genre très bizarre, donc pareil, j'ai oublié le nom, mais qui le représente pas trop.
Les voitures qui mangent,
je sais plus quoi. Ouais, mais ensuite, il y a un diptyque qui est Picnic à Hanging Rock et La Dernière Vague, qui sont deux films qui sont secrètement consacrés à l'aborigène, en fait, même si c'est à chaque fois pas. Enfin, dans le cas de Picnic à Hanging Rock, pas tout à fait le cœur de l'histoire. Et c'est deux films qui vont faire du fantastique sur très peu d'éléments. Et qui vont faire monter un doute horrifique, fantastique autour de...
Qu'est-ce que ça raconte, Picnic à Hanging Rock,
ça se passe au début du XXe siècle, en Australie, dans un endroit assez reculé de l'Australie. Et l'Australie, quand c'est reculé. donc, ça se passe dans un pensionnat de jeunes filles qui accueille des jeunes blanches aristocrates avec une sorte de contraste, puisqu'autour c'est le désert, et il y a sûrement des animaux mortels tous les deux mètres, et voilà. Et dans ce pensionnat de jeunes filles, dirigé par une dame un peu acariâtre, voilà, où on apprend à faire de la couture et du piano et ce genre de choses-là, et ben un jour on va faire une sortie à l'extérieur et on va aller visiter un petit site géologique qui s'appelle Hanging Rock, et trois filles vont disparaître de manière absolument inexpliquée. Et ensuite, on va enquêter sur leur disparition, mais aussi les parents vont s'inquiéter, les parents aussi des autres jeunes filles. Le pensionnat va peu à peu exploser de suspicions, de risques de fermer, etc. Et c'est l'histoire de cette disparition et de cette enquête, mais surtout l'histoire de... Une histoire qui n'est pas du tout traitée en termes concrets, mais qui a été traitée comme si c'était... presque une énigme du monde. Voilà, il y a une sorte de faille de l'espace-temps dans lesquelles cette espèce de féminité idéale des jeunes filles diaphanes,
c'est
en robe blanche,
c'est un film qui est éthéré un petit peu, un film qui est flottant.
Extrêmement, on ne sait jamais exactement ce qui s'est passé, on ne sait jamais pourquoi elles ont disparu. La scène où elles disparaissent, c'est une scène où de flottement où peu à peu tout le monde devient fou, devient un peu dans une espèce de somnolence.
Et toi, pourquoi t'aimes bien ce film?
Parce que j'ai l'impression que j'aime que les films soient des énigmes irrésolues, mais soient forts et soient habiles dans cette énigme irrésolue. Moi, j'ai l'impression que ce film recueille un des secrets du monde, quoi. C'est ça qui me rend un film beau. C'est ça qui me donne envie d'y revenir. C'est pas qu'il m'assène une vérité ou qu'il m'explique quelque chose, qu'il me pose une question qu'il me pose une question, ça m'intéresse. Mais il y a des films.
Le film reste un mystère.
Il y a des films comme ça dans lesquels j'ai l'impression qu'il y a une vérité secrète de l'ordre du monde qui est cachée. Et dans la fente irréelle et fantastique dans le monde dans lequel ces trois jeunes filles ont disparu, j'ai l'impression qu'il y a une de ces énigmes-là. Et c'est ce qui me fait me revenir au film. Et d'ailleurs, le film a un pouvoir de fascination absolu sur beaucoup de cinéastes. Je pense que Gus Van Sant lui doit beaucoup. Sofia Coppola ne fait que des remakes de
Picnic
en Rock. Malheureusement, elle les rate, mais bon, ça, c'est une autre question. Mais effectivement, Virgin Suicide, c'est un film qui, dans la patte, l'atmosphère, lui doit beaucoup. Il y a quelque chose de la jeune fille qui, plutôt que de se sacrifier, plutôt que de devenir partie du monde et du monde vivant et de la vulgarité ou quoi, va disparaître au fait de sa beauté et de sa pureté. Et cette pureté... Cette pureté échappe au monde et donc du coup elle va littéralement lui échapper et disparaître. Il y a une énigme sur la féminité et sur la pureté dans le film qui est incroyable. C'est un des plus beaux films du monde.
Un peu hypnotisant comme tu racontes. Totalement. Effectivement. Bon. Du coup, Picnic à Hanging Rock de Peter Weir, 1975, voilà. Donc film australien,
Et je rajoute en 10 secondes que je pense que vraiment c'est un diptyque, qu'il faut voir La Dernière Vague, qui est un des films, moi c'est les films qui fait le plus peur au monde. Je l'avais mis en top 1 du truc classement dont on parlait tout à l'heure. Et pour moi ça va un peu ensemble. Picnic à Hanging Rock, c'est diurne, c'est éthéré, c'est pur. Et La Dernière Vague, c'est morbide, c'est noir, c'est du pétrole, voilà, c'est l'horreur et La Blancheur. Pour moi, ces deux films, ils vont ensemble et c'est très beau de les regarder l'un après l'autre, à peu d'écart. Quelques jours quand même, parce que ça marque trop pour les...
Merci pour ce partage, Théo. Alors moi, je vais avoir un film qui est beaucoup moins éthéré, beaucoup moins flottant et beaucoup moins peut-être...
C'est Sacré Graal, enfin, on y
vient. Hypnotisant. Sacré Graal, non, mais re-regardez Sacré Graal, on a besoin de revoir Sacré Graal.
Voilà.
Non, moi, je veux juste vous conseiller, si vous aimez les... Je suis tombé là-dessus parce qu'un jour, je me suis fait une partie film de montagne. Du coup, j'ai enchaîné tous les films de montagne que je pouvais connaître et ça, c'est vachement bien. Je vous conseille de faire ces petites une semaine de films de montagne, une semaine de films de train, une semaine de... C'est très très bien, c'est un bon exercice. Je me suis fait une semaine film de montagne et j'ai découvert un film qui s'appelle La Sanction avec Clint Eastwood, qui est une sorte de film où effectivement Clint Eastwood, on va lui demander d'accepter une mission et il va devoir escalader ce qu'on appelle le Eiger, qui est un sommet suisse, il me semble, si je m'en rappelle. Et donc c'est une espèce de, comme c'est un espion, c'est une espèce de simili James Bond, un petit peu soft porn pour vous donner une idée. Pour monter cette fameuse montagne,
James Bond c'est déjà soft porn en plus.
Mais donc. Alors là c'est encore plus, parce que pour monter effectivement cette montagne Eiger, il va devoir entraîné, parce que c'est un mont qui est compliqué. Il va être entraîné par une jeune femme. Qui va du coup l'entraîner à escalader, et à un moment donné il va pas vouloir escalader la montagne, et la jeune femme va se dévêtir et va lui dire: écoute, si tu arrives à monter cette montagne, tu vas pouvoir me baiser. Donc t'as cette scène un peu atypique où la meuf effectivement se dévêtit et lui promet du sexe non tarifé, mais du sexe quand même, voilà, s'il escalade la montagne. Donc c'est une sorte de
pas James... tarifé, mais tarifé
D'un effort physique. Alors c'est une sorte de James Bond décomplexé où le mec s'en fout complètement, c'est un nanar. Moi en tout cas, c'est un film qui a certaines qualités, mais qui est quand même un petit peu ridicule. Mais c'est toujours un peu rigolo de voir Clint Eastwood au sommet de sa bogositude, parce qu'effectivement, les 70, il va être... dans plein de rôles comme ça, où il va être le mal alpha ultime. Il va être dans ces rôles un peu particuliers. Et en plus, dans ce contexte un peu de James Bond-like, c'est toujours un petit peu intéressant. Donc, La Sanction, je ne vous promets pas que c'est bien, mais ça peut être rigolo. Donc, regardez ça quand même. Donc, 75 également. Théo, on arrive à la fin de cette émission. On va récapituler peut-être les petites choses à voir. Alors, si vous êtes... fan des Dents de la Mer, regardez les Dents de la Mer. Mais comme l'a dit Théo, effectivement, regardez Hitchcock aussi, parce que entre Hitchcock
et de Psychose,
et voilà.
On a parlé de La Mort aux Trousses,
de Vertigo, de pas mal de choses. Si vous êtes fan de Jack Nicholson, on a parlé de Vol au-dessus d'un nid de coucou,
Ah, on n'a pas dit c'est quoi pour toi le meilleur Jack Nicholson.
Ben écoute, j'ai découvert 5 pièces faciles pour ce podcast, qui est un film assez particulier avec un rythme un petit peu bâtard. Mais je vous conseillerais de regarder 5 pièces faciles donc de Bob Rafelson, notamment pour une scène magnifique de Jack Nicholson au piano avec un choix de mise en scène qui est, je trouve, sublime. Donc 5 pièces faciles, regardez ça, vous passerez un bon moment. Et si vous êtes fan de Jack Nicholson et si vous voulez avoir des compléments à ce qu'on a raconté sur le bonhomme, n'hésitez pas à lire sa biographie qui s'appelle donc Five Easy Decades de Dennis McDougall. Voilà. Est-ce que tu avais toi des trucs sur tes des livres ou sur ce que tu avais peut-être raconté sur John Dillman ou sur
Des livres. John Dillman, alors il y a un très beau livre de Jérôme Mumsilovic sur Chantal Akerman qui s'appelle Chantal Akerman, Dieu se reposa mais pas nous, aux éditions Capricci, qui est sorti il y a pas très longtemps.
Très bien. Et Profession Reporter, il y a un magnifique coffret qui est sorti chez Carlotta l'année dernière. Donc Profession Reporter, si vous pouvez aussi vous jeter dessus, c'est quand même pas mal du tout. Et si vous aimez bien Antonioni, n'hésitez pas à regarder Zabriskie Point, qui a l'une des meilleures fins du monde entier. On arrive à la fin de cette émission, enfin, au moment fatidique où Théo, l'invité du jour, va devoir choisir ou en tirer qu'on va traiter à l'épisode suivant. Donc, notez que pour...
Est-ce que tu vas mettre la musique de Motus pendant que le
truc charge ? Non, en plus, ça, c'est très très rapide, donc tu risques d'être déçu. Pour vous donner une idée, j'ai mis un Google Random devant Théo, avec entre 1895 et 2018, il va appuyer sur « Générer » et ça va sortir une année, et c'est l'année dont on va parler avec un autre invité à l'épisode suivant, d'Année Lumière. Alors, on va juste se mettre une petite variante. Comme on a parlé de 75, si ça retombe sur un film des années 70... On se permettra de retirer, histoire de varier les plaisirs véritablement. Théo, quelle est l'année du prochain épisode ? Je te laisse tirer.
Non, je vais pas faire le bruit. Générer. 1939.
Ah. 1939.
Qu'est-ce que je crois qu'à Citizen Kane, en fait.
Ah, peut-être.
Et la règle du jeu, si tu prends quand il est sorti. Enfin, en tout cas, tu vas avoir tous les films qui ont été faits en 39 et qui ensuite vont passer 6 années un peu compliquées pour l'humanité dans un placard et qui ensuite on a découvert. Je pense que tu auras la règle du jeu, effectivement.
Bon, du coup, 1939, c'est d'être donc effectivement l'année de l'épisode 2 d'Année Lumière.
C'est une très belle année, j'écouterai avec beaucoup d'intérêt.
On va voir qui est-ce qui va venir nous en parler. Merci beaucoup Théo d'avoir accepté l'invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver rapidement?
Je souhaite pas que vous me retrouviez parce que moi je vis à Pantin, mais je vous dirai pas où. Moi je suis critique aux Inrecuptibles et donc j'écris des critiques de cinéma dans ce magazine un peu toutes les semaines, et puis je m'occupe aussi d'un magazine qui s'appelle Stylist, et donc je coordonne un peu la culture, et puis je parle aussi de cinéma souvent, même majoritairement, j'espère, sur mon compte Twitter. Théodore avec 2D, THEO2D, voilà. Et j'ai pas tellement d'autres actualités parce que je suis pas assez travailleur pour ça.
Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère qu'on vous a pas trop assommé avec nos films très joyeux. N'hésitez pas à revoir Sacré Graal si vous voulez quitter cette année 75 sur une belle note. Mais en tout cas, on espère qu'on vous a donné envie de voir et de revoir du cinéma, c'était notre objectif. Merci à tous et à très vite pour le second épisode et le prochain épisode.
En 1939.
Exactement, de Année Lumière. Merci, salut.
Merci Thibaut.